vous plaît, Sylvain. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce conseil municipal du mois de juin. Voilà, il y a quelques pouvoirs ce soir. Donc Catherine Vasille en faveur de Clément Robillard, Nadia Alloul en faveur d'Isabelle Michaud, Cédric Spérandio en faveur de Jean-Baptiste Laurendon et enfin Philippe Chessac en faveur de Madame Desco-Blandine. Pardon. Je vais demander, s'il le veut bien, Jean-Baptiste Laurendon d'être notre secrétaire de séance. Merci à vous. Je vais commencer cette séance par reparler, malheureusement, en fait, du décès le 7 mai dernier de Michel Bisaccia. Donc, Michel nous a quittés voilà, il y a un petit peu moins d'un mois. C'est le premier conseil municipal auquel nous assistons et où elle n'est plus là. Et donc, à ce titre-là, je vais vous demander d'observer une minute de silence. Je voulais rappeler simplement qu'elle avait été conseillère municipale entre 2001 et 2008 en tant que conseillère municipale de l'opposition. Puis à partir de 2008, donc elle a été adjointe, donc seconde adjointe sur la municipalité que je dirigeais. Et quelques mois après, elle a été nommée donc première adjointe. Elle y est restée donc jusqu'en mars 2020 aux côtés donc de Christian Servant. J'ai fait un petit calcul, puisqu'elle aimait bien les chiffres et moi aussi. Comme quoi elle a dû assister à 240 conseils municipaux. Donc ça marque un peu voilà, la mairie et la municipalité en général. Et à ce titre-là, je souhaite qu'on observe ce minute de silence. Je vous demandais de vous lever. Alors, nous allons commencer, comme habituellement, cette séance par évoquer le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, avant de passer aux voix? Si vous n'avez pas de remarques ou de questions, je vous propose de passer aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unité. Je vous en remercie. Alors, on va commencer tout de suite par l'administration générale, un peu comme d'habitude, puisqu'il y a quelques décisions du maire en ce début de mandat. Alors, tout d'abord, en date du 24 avril 2026, on a passé un marché avec une société qui s'appelle Omer Vacances. Ça concerne donc l'organisation d'un séjour vacances pour nos adolescents qui ont entre 15 et 17 ans. Ça se déroulera donc à Messanges qui est dans les Landes. Ça coûte 5 518,80 €. Voilà, ça fait par enfant, enfin par ado, 306,60 €. Voilà, et on emmène donc 18 jeunes, 3 accompagnants. Et donc, c'est valable donc pour cette nuit entre le 4 et le 11 juillet. Vous pourrez bien entendu poser des questions à la fin donc des différentes décisions qui vous sont présentées ce soir. Donc le 27 avril, ça concerne en fait le complexe sportif de la Bargette, donc tennis et football. On en parlera en fin de séance puisqu'on vous présentera le bilan financier de ce complexe sportif. Donc c'est un avenant numéro 1 au lot 9. Le lot 9, c'est l'électricité. Donc on avait contracté avec la société Joubert Équipement. Donc c'est des prestations supplémentaires, c'est une augmentation de 39 144,97 €. Voilà, c'est donc dans le cadre de la restauration de ce complexe-là. Initialement, donc, c'était 20 000 €, et c'est la mise en place du système de contrôle d'accès et d'alarme d'intrusion donc pour ce site-là. Le même jour, en date du 27 avril, c'est à nouveau un autre avenant, mais ça là, c'est sur le lot numéro 7, concernant toujours le complexe sportif Camille de Roche-Taillé, et ça concerne donc le carrelage, et c'est avec une société qui s'appelle Un Carrelage. C'est une augmentation c'est un marché global de 19 942,33 €, et une augmentation de mémoire qui va être de 4 000 €. Donc c'est en raison de la modification de l'épaisseur de la chape du court de tennis, le nouveau court de tennis couvert. Toujours le 27 avril, donc on a un contrat de location de batterie, c'est pour un véhicule électrique. Donc on contracte avec Diac Location et c'est pour 84 mois. Ça coûte 75,60 € TTC. Le 28 avril, donc c'est un contrat de maintenance pour la nacelle. On a une nacelle au niveau du NEC, l'espace culturel, qui nous sert aussi bien pour le NEC, mais également pour les gymnases. On contracte avec la société Olot, donc c'est simplement de la maintenance. Donc c'est pour 5 ans, et ça coûte 732 € TTC par an. Je le dis bien, puisqu'après vous allez voir que ça va être beaucoup plus cher. Le 29 avril, donc on organise à nouveau... pour les 9-15 ans, cette fois-ci, un séjour avec hébergement, donc ça se passe au Vieux Boucau, pour l'été donc 2026. C'est 25 jeunes, donc plus 5 accompagnateurs, dont un chauffeur. C'est du 4 juillet au 11 juillet. La spécificité de cette année, c'est qu'une partie des jeunes vont rejoindre en fait les autres adolescents pour partir ensuite, je crois, c'est sur Barcelone, il me semble. Barcelone. Voilà. Donc ça coûte 11 047 € TTC. Donc on a essayé, enfin c'est pas nous d'ailleurs, puisque c'est coup parti, c'est en fait pour essayer de faire des économies en matière de transport. Donc ça coûte 11 047 € pour ce séjour donc de 9 à 15 ans. Voilà. Et c'est 25 jeunes plus 5 accompagnateurs. Le 12 mai, c'est un contrat de service donc avec la société Exae, donc c'est notre. On va dire que c'est notre fournisseur de maintenance informatique. Et ça concerne donc les finances. Donc c'est à compter du 1er juillet 2026 et c'est pour 3 ans. Alors là, écoutez bien, ça coûte 805,48 € hors taxe, mais ce n'est pas par an malheureusement, c'est mensuel, ce qui fait un coût de 967 € TTC, ce qui fait pas loin de 10 000 € par an. Et on passe exactement le même contrat, toujours avec la même société Exae. Et là, ce coup-ci, c'est pour les ressources humaines. Et c'est un peu les mêmes prix, puisque c'est 801,42 €, ce qui nous fait 961 € TTC. Et donc un peu moins de 10 000 €, un peu plus de 10 000 €, aussi pour ce marché-là. Donc vous voyez, en deux marchés de maintenance informatique, soit pour les finances ou pour les ressources humaines, c'est un coût quand même de 20 000 €, et je l'avais annoncé l'autre fois, je crois que le coût de la maintenance pour les services de la mairie, c'est aux alentours de 140 000 à 150 000 euros par an. Donc c'est un gros poste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions du maire ? Pas de questions, je vais procéder donc à évoquer donc le deuxième sujet de la soirée. Ça concerne la cantine et l'accueil périscolaire avec une modification qu'on vous souhaiterait vous proposer ce soir pour le règlement intérieur. Donc je vais passer tout de suite la parole à Audrey Voirin. Je voudrais juste rajouter, c'est une des premières mesures qui a été prise au niveau de la délégation auprès des écoles. Donc je voudrais remercier Audrey Voirin et Blandine Déco qui sont emparés du sujet très rapidement. Bon, on est en fin d'année scolaire et il est important en fait qu'on puisse se relancer sur une nouvelle année scolaire avec quelques petites modifications qui ont pour objectif d'améliorer le fonctionnement de nos écoles et le bien-être de nos enfants et les attentes également des parents d'élèves. Elles sont nombreuses, au même titre que nos enseignants. On a déjà fait beaucoup de réunions. On s'est posé la question sur la cantine. On a rencontré aussi les gens du CDAT. Voilà, donc juste une petite parenthèse aussi, parce que la semaine dernière, on a vécu donc une période de canicule sur la région, enfin même sur la France entière. Et donc, dans l'urgence, on a souhaité acquérir très rapidement des systèmes portatifs de climatisation et de ventilation pour l'école Georges Sand, qui est une école Qui est une école des années 80 voire 90 et qui est très mal isolée. Alors, l'hiver il fait froid et l'été il fait très chaud, donc on ne pouvait pas ne pas réagir immédiatement. Donc j'espère que voilà, les canicules il y en aura moins, mais bon, il faut quand même anticiper et on n'est pas à la merci qu'il y en ait une autre au mois de juin ou au mois de septembre. C'est pour cette raison qu'on a été très vite. Voilà, donc l'idée c'est qu'on finisse bien l'année scolaire et qu'on reparte bien sur une nouvelle année. Voilà, Audrey, c'est à toi.
Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, il nous est demandé de se prononcer sur la fixation des tarifs de la cantine et de l'accueil du périscolaire par rapport au contexte économique qu'on connaît, qui est marqué par une inflation depuis quelques années. Il nous paraît c'est important que de maintenir un bouclier social par rapport à ça. Et par rapport aux tarifs. Donc, par rapport à ça, on voulait voir sur le règlement intérieur, déjà pour les parents, qu'au niveau de ce coût tarifaire, ils aient une transparence sur combien coûte un repas. Parce que on est sur le quotient familial. Donc, les familles ne payent pas le coût total que peut coûter un repas à la commune. Et donc, c'est important qu'ils sachent qu'un repas ne coûte pas 5 euros, 3 euros, mais qu'on est sur 11,87 euros par repas. Dans ces 11,87 euros, ça comprend la prestation du fournisseur, du personnel communal, d'encadrement et des frais de transport et de fonctionnement. Et on a fait de même pour le coût du périscolaire, d'une heure de périscolaire, qui aujourd'hui, le tarif est bloqué à 2,40 euros pour les élèves. Mais le coût réel est de 4,23 euros. Donc, il y a quand même une charge pour la commune et ça nous semblait important que les parents en aient connaissance. Et ça a été évoqué lors de notre réunion mardi dernier avec les parents élus. Effectivement, ils n'avaient peut-être pas forcément connaissance du montant total. Après, au niveau du règlement, on a souhaité aussi détailler par rapport au fonctionnement donc, du temps d'accueil, de comment on réservait les repas et surtout comment on pouvait annuler au niveau des repas pour éviter les majorations et surtout éviter beaucoup d'aller-retour, enfin de travail aux agents administratifs parce que les parents soit ne désinscrivent pas et du coup ont une majoration sur leur prix initial de repas et ça peut leur prendre du temps. Donc c'était pour que ça soit plus transparent au niveau à ce sujet-là. On a réévoqué par rapport au paiement aussi. Donc on n'a pas changé le fond du règlement, on a juste détaillé pour qu'il y ait plus de transparence. Et le point qui nous semblait très important, c'était les règles de vie concernant la cantine avec les enfants, parce que ça doit être un moment convivial autant pour eux que pour les agents qui les encadrent. Donc on a rappelé quand même ces règles et aussi à quoi ils encouraient si les règles n'étaient pas respectées et les différentes étapes par rapport à ce sujet. Voilà. Pardon. On a également fait une modification concernant le périscolaire. Aujourd'hui, le périscolaire, il n'y a pas d'inscription préalable sur la plateforme. Et là, ça a été à la demande des directeurs d'école, des deux écoles et des agents. Parce que donc en maternelle, ils inscrivent les enfants le jour même, en arrivant le matin. Mais en primaire, ils ne le font pas. Et des moments, les enseignants ne savent pas qui reste au périscolaire et qui peut partir. Donc ça a été une demande de leur part pour sécuriser que l'enfant qui doit rester au périscolaire soit bien au périscolaire. Donc on a décidé que l'inscription soit obligatoire et donc les parents ont jusqu'à la veille pour inscrire leurs enfants. Voilà. Et on a fait, pardon, deux feuilles Falk, donc faciles à lire et à écrire. Ça, c'est pour les personnes qui ont du mal, du coup, à lire ou écrire. Donc, ça reprend sur trois feuilles le périscolaire, la cantine et les règles de vie. À quoi ça sert, les horaires, les menus, les inscriptions, les annulations, les tarifs et le comportement. Voilà.
Merci Audrey. Donc oui, c'était un gros travail qui a été mené parce qu'il y a un petit peu d'attente et puis au niveau sécurité, il y a quelques d'autres choses à mettre en place. Et je trouvais que c'était important en fait qu'on s'y attelle tout de suite et encore merci à vous deux pour le travail fourni. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, Clément Robillard.
Merci beaucoup. En fait, j'avais des questions, mais vous venez d'y répondre avant que je les pose. Donc, merci beaucoup. Simplement une question qui sort de cette délibération, mais en lien quand même avec l'école. Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur les inscriptions aux écoles à compter de la rentrée prochaine? Est-ce que vous avez déjà ces données ou est-ce que c'est un peu tôt?
On avait un prévisionnel.
Je pourrais peut-être vous demander par écrit pour vous communiquer.
Je pourrais vous les transmettre par mail.
Ok, merci beaucoup.
Alors, notre problématique... Pardon, Christian Servant.
Oui, je voulais revenir sur le règlement avec lequel je suis tout à fait d'accord. Ce qui nous semble important aussi, c'est qu'il faut impliquer les parents et les familles. Ce n'est pas un click and collect à la cantine. Ce n'est pas, tiens, je suis en vacances, je ne serai pas mes enfants. Je n'ai pas envie de les... Je ne travaille pas aujourd'hui, il ne va pas à la cantine, etc. C'est un coût pour la collectivité. Vous l'avez rappelé, on est prêt à près de 11 euros du repas. Alors, dans un sens, si l'enfant ne vient pas, c'est gâché. Et s'il vient et que ce n'est pas prévu, ça pose des problèmes d'organisation. Donc, il faut aussi responsabiliser les parents. Parce qu'à un moment donné, c'est trop facile, y compris, nous, on avait vécu, tiens, il y a une sortie scolaire, vous auriez dû les désinscrire de la cantine. Non, ce n'est pas à la mairie de le faire. C'est aux parents. Parce qu'en plus, sur une sortie scolaire, tous les enfants n'iront peut-être pas. Donc, c'est important aussi de bien responsabiliser les parents. Et c'est à eux de gérer le temps périscolaire de leurs enfants.
Si pour avoir mangé donc avec madame directrice du CAT lundi, c'est vrai que je pense que réellement c'est pas pour te contredire Christian, mais c'est plutôt aux écoles d'annoncer qu'en fait il y a une sortie périscolaire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils se sont retrouvés quelquefois avec 30 ou 40 repas sur le dos sans que ça ait été annoncé.
Je voulais préciser, j'ai pas dit qu'il fallait pas prévenir le CDAT. J'ai dit qu'il fallait que les familles désinscrivent leurs enfants de la cantine. Parce que si on dit à une classe de 25 élèves, donc les 20, enfin sur les 25, il y en a 18 qui mangent à la cantine, ils ne mangeront pas, on n'est pas certain. Peut-être que certains, les parents vont dire, non, il ne va pas à la sortie. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc c'est ça, il faut aussi responsabiliser les parents. Clément Roubillard parlait des inscriptions, etc. On va attaquer la période d'inscription, fin juin, sur la rentrée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, la grande majorité des habitants connaissent les règles, les respectent, et aujourd'hui c'est très facile de gérer au jour le jour son enfant. Et puis, il y a une poignée d'individus, mais que ce soit au NEC, que ce soit l'école municipale des arts, que ce soit au centre de gestion, c'est pareil. Il y a toujours les mêmes personnes qui oublient ou qui ne veulent pas s'en occuper ou qui considèrent que ça nous doit faire. Donc voilà, c'est tout. Il faut responsabiliser les gens.
Juste un mot, puisqu'on parle des écoles, l'occasion m'en est donnée. Bon, par rapport aux effectifs, c'est on vous les donner, Clément Robillard. Ces effectifs ne se portent pas très bien, il faut le reconnaître. Ce qui nous a mis dès les premiers jours de notre élection devant le fait accompli par rapport à deux fermes d'une classe, une fermeture donc à Georges Sand, une fermeture à Jules Ferry, à Jules Verne, pardon, la plus. Et donc avec le risque aussi de perdre en fait la délégation que le directeur de Jules Verne a pour faire son poste de direction. Voilà, donc on est bien entendu monté au créneau, les parents sont montés au créneau, il y a d'ailleurs des retranscrits dans la presse, etc. L'idée, c'est de défendre bien entendu les classes. Donc on a ferraillé avec l'UN qu'on a rencontré. Bon, clairement, compte tenu des nouvelles inscriptions, même si ce n'est pas définitif, parce qu'il y a une décision qui sera prise le 30 juin, on ne devrait pas pouvoir maintenir les deux classes, puisqu'en fait on est sur les effectifs de mémoire, on est à 27 d'un côté et 22 de l'autre. Donc on est bien en dessous des planchers. Donc voilà, on va enregistrer ces deux fermetures. Par contre, On espère quand même conserver, mais on le saura aussi le 30 juin, la décharge en fait du directeur d'école de Jules Verne. Voilà. Et c'est vrai qu'il faudra relancer en fait l'école. Bon, on en parlera peut-être un peu à la fin, puisqu'en fait on vous présente le bilan financier ce soir aussi, définitif, puisqu'il remonte quand même à 2024 de l'école Jules Verne. Et voilà, il y a une école en fait qui est très belle aujourd'hui d'un point de vue architectural, mais qui au niveau du projet éducatif voilà, a peut-être manqué quelque chose. Et donc aujourd'hui, il est temps de regagner un peu peut-être la confiance des parents aussi, parce que ça c'est important. Et puis aussi de vanter aussi les mérites de l'école par rapport à l'accueil qu'on peut y réserver, par rapport à la qualité également de l'enseignement qui est pratiqué. Et donc voilà, donc on a déjà, sur le dernier bulletin municipal, on a déjà fait un article pour essayer de faire revenir un peu de monde. Pour l'instant, on va jouer en toute transparence. Je n'ai pas signé des tonnes d'inscriptions. Donc j'invite les parents qui ont des enfants qui sont en âge d'aller à l'école de venir nous rejoindre. Voilà, merci à vous. Je vous propose de voter en fait ce règlement intérieur, donc avec ces modifications, donc je répète, pour la cantine et l'accueil périscolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Je vais conserver la parole, je vous évoquais un sujet de désignation de délégués au conseil d'administration du lycée Simone Veil. Là aussi, la première semaine qu'on est arrivé, on a rencontré Madame la proviseure. Madame Barbara, donc avec Julien Rivière. Bon, c'est un partenariat qui existe depuis très longtemps, puisqu'on est intimement lié avec le lycée. On l'est un petit peu moins compte tenu de la vente, de la session gratuite d'ailleurs à l'époque du gymnase au profit de la région. Mais on est sur quelques partenariats au niveau notamment de leur classe théâtre, mais également par rapport au prêt de certains matériels ou également du NEC avec le lycée Simone Veil. Et donc voilà, c'est important que ce partenariat perdure dans le temps. Et donc c'est important également de nommer nos représentants, donc deux titulaires et deux représentants suppléants au conseil d'administration du lycée Simone Veil. Donc moi, ce soir, je vous proposerai donc Julien Rivière et Audrey Voirin en tant que titulaires et en suppléant Xavier Lecoeur et Aya Gagna. Est-ce que vous avez d'autres candidats? Voilà, je vous propose donc de voter donc ces désignations. Qui est contre? Pardon, Claude.
Non, juste une petite précision. C'est pas parce qu'on a des liens privilégiés depuis longtemps. Ça, c'est quand on avait du monde au collège. Mais au lycée Simone Veil, vu qu'il est sur la commune, c'est statutaire le fait qu'il y ait un délégué de la commune qui soit au conseil d'administration.
Merci pour cette précision, Claude Bruno. Juste avant de voter, tiens, juste vous dire aussi que le terrain sportif a été rénové, comme vous pouvez le voir, il est d'assez belle qualité. Le chiffre qui m'a été donné, 1,2 million, ne m'apparaît pas par rapport à la qualité du lieu, par rapport à ce qu'on voit un peu partout, notamment au complexe sportif de la Bargette, n'a pas paru important. Et par contre, il prévoit une rénovation du gymnase à partir de 2030. Voilà. Et aujourd'hui, le lycée, c'est 1085 lycéens. Et voilà, le lycée, on va dire, fonctionne plutôt très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer aux voix. Qui est contre ces candidats? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. C'est adopté également à l'unanimité. On va évoquer un nouveau règlement intérieur, mais qui a trait purement à notre instance, le conseil municipal. C'est à moi? Merci. Alors, quand on s'était réunis le 6 mai dernier, on avait approuvé déjà ce règlement intérieur. Et c'est vrai qu'on a un contrôle en fait, de la légalité au niveau de la préfecture qui est assez strict. On l'a vécu à travers les différentes délégations qu'on avait données aux adjoints, puisqu'ils nous ont retoqué une fois, voire deux fois, les délégations sur des intitulés qui ne leur allaient pas. Et là, aux surprises, parce que franchement, il n'y avait pas... Voilà, c'était, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Il n'y avait pas de grandes difficultés. En tout cas, ils nous ont demandé de revoir notre règlement intérieur sur deux points. Donc, sur l'article, tout d'abord, 5, qui concerne l'expression des élus. Notamment, quand les élus posent des questions orales, elles doivent être adressées donc au maire dans le règlement intérieur qu'on avait simplement prorogé, hein, puisque l'ancien règlement intérieur, c'était 10 jours avant le conseil municipal. Ils nous ont demandé, en fait, de ramener à 48 heures, donc 2 jours, puisqu'en fait, le maximum, c'est 72 heures. On ne peut pas aller aux 72 heures, donc on a décidé d'aller à 48 heures. Et le deuxième article qu'on vous propose de modifier, c'est l'article 8, et ça concerne les commissions municipales qu'on a mises en place, elles ne sont pas encore en place, elles seront en place sur septembre-octobre. Donc il y aura des premières réunions auxquelles vous serez les élus qui participent invités. Donc ces commissions municipales, le président en est le maire en exercice, mais et également l'adjoint est censé donc mener les débats de ces commissions municipales, l'adjoint qui a la délégation des différents sujets de ces commissions-là. Et il nous est demandé en fait de désigner un vice-président qui ne peut pas être un adjoint sur ces commissions municipales. Voilà, donc on change le règlement intérieur et lors des premières réunions donc de l'installation de ces commissions municipales, on nommera donc un vice-président qui sera élu pour la mandature et qui n'aura pas à être un adjoint. Voilà, donc c'était simplement ces deux modifications. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, c'est adopté également à l'unanimité. Alors, ce coup-ci, je vais pouvoir passer la parole, puisque c'est un sujet qui est très important pour la commune. On va évoquer 9 conventions avec la CAF. Donc, c'est des conventions d'objectifs et de financement. C'est une très importante. Pourquoi, en fait? Parce qu'elle nous permet, à la CAF, d'avoir une politique en direction de la jeunesse, des enfants, de la petite enfance, politique éducative en général, d'avoir une politique qui nous permette de financer, mais pas que, puisqu'il y a beaucoup d'accompagnement ici de la part de la CAF. Voilà, c'est à Blandine donc d'évoquer ces 9 conventions.
Oui, c'est ça, exactement. Donc la CAF, comme l'a dit M. Pose, est le partenaire institutionnel et financier historique et indispensable pour la commune pour le déploiement de la politique publique en direction de la famille, de la petite enfance et de la jeunesse. Donc aujourd'hui, il nous est proposé de renouveler le cadre contractuel qui nous lie à cet organisme à travers la signature de 9 conventions d'objectifs et financement. Ces conventions permettent de sécuriser d'importantes contributions financières pour le budget de la collectivité et de pérenniser la qualité de nos services publics. Pour la clarté de ces documents, ces conventions se répartissent en 4 grands axes structurants pour Saint-Prier. Donc 1, la petite enfance, 2, l'enfance, 3, la jeunesse et le soutien à la parentalité, et 4, le pilotage du projet de territoire et d'ingénierie, donc qui concerne essentiellement la convention territoriale globale. Donc, concernant la petite enfance, établissement d'accueil du jeune enfant, nous renouvelons le soutien de la CAF pour nos structures d'accueil à travers le versement de la prestation de service unique, qu'on appelle la PSU, et des bonus associés. Parce qu'à chaque fois, en fait, dans les conventions, on associe les bonus territoire, donc de la CTG pour la petite enfance. On parle aussi de mixité sociale, il y a un petit bonus là-dessus. Et il y a également un bonus sur l'inclusion, handicap et attractivité. Cette convention sur la petite enfance concerne bien sûr le jardin d'enfants Pégase, donc pour la période 2026-2030, et la structure Castor et Pollux sur 2026 et 2030 également. Pour l'enfance, le périscolaire et l'extrascolaire, donc le périscolaire, on parle de périscolaire pour les mercredis. Ce volet soutient les activités d'animation et de loisirs en y intégrant les compléments inclusifs pour l'accueil d'enfants en situation de handicap. Concernant la jeunesse, le soutien à la parentalité et l'animation locale, ces conventions ciblent plus spécifiquement les adolescents, ainsi que l'accès à la culture et aux loisirs partagés. Donc on parle de subventions pour l'accueil adolescent, donc le mercredi après-midi à l'espace jeunesse, la subvention dédiée au fonctionnement de la ludothèque également, et le soutien aux formations BAFA et BFD pour accompagner les futurs animateurs et directeurs de centres de loisirs. Et pour terminer, donc il y a l'axe sur le pilotage du projet de territoire. Ce dernier axe finance la coordination de la convention territoriale globale, la CTG, donc le poste de chargé de coopération, le dispositif d'ingénierie lié au pilotage du projet de territoire qui a été signé en 2025 ici. Voilà. En fixant des objectifs partagés et en garantissant ses cofinancements, ces conventions formalisent l'engagement permanent de la municipalité pour l'épanouissement des jeunes de la naissance à l'entrée dans l'âge adulte. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'approuver les termes de ces 9 conventions d'objectifs et de financement à intervenir avec la CAF de la Loire et d'autoriser monsieur le maire à signer lesdites conventions ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Merci Blondine, j'espère que vous l'avez toutes lues. Oui. Les 9 conventions, elles sont très importantes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, Christian Serrant.
Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est très important, comme ça a été rappelé, en termes de financement, c'est même essentiel pour l'ensemble des activités. On a vécu sous l'ancienne mandature 2 contrats territoriaux globaux qui se substituent au contrat enfance-jeunesse. Le dernier qui a été signé en fin d'année 2025 est très important parce qu'en définitive, il impose ou il oblige, mais avec la bonne volonté des 6 communes concernées, à une convergence d'action. Et puis surtout, au travers de ces décisions, parce que personne n'est dupe, on avait en cumulé sur les 6 communes l'équivalent de 3 postes équivalents temps plein en chargé de mission, et là on passe à 1,5. Donc je pense que pour nous c'est 0,5, c'est ça à peu près ce qui est prévu pour le poste d'Ayane, on va dire.
En fait, le poste de chargé de coopération, on est à 0,2.
0,2 alors.
Oui, parce qu'en fait, après, vous avez pris au niveau de l'ancien mandature, au niveau de l'ingénierie, qui fait que, en fait, cette année, c'est la commune de Saint-Prié qui pilote. Oui. Et voilà, donc là, c'est vrai que cette année, ça fait plus. Mais comme le pilotage sera pris...
Il sera normalement tournant.
Voilà.
Donc, en fait, la CAF s'y retrouvait, mais ça, c'était un débat de fond, parce que si nous, on a des contraintes financières, eux aussi, à leur niveau, mais c'est quand même très conséquent, parce que c'est plus d'un poste et demi sur l'ensemble de la durée de cette convention qui n'est plus financée. Voilà. Et ça a amené effectivement des difficultés, y compris dans l'organisation même de ces postes de coopération, si vous voulez, où on a opté pour une situation simple. Est-ce qu'on pouvait, dans une commune, une des 6 communes concernées, faire émerger un agent, un fonctionnaire, qui aurait un rôle de superviseur sur les 5 autres communes? On avait essayé avec Guillard, ça n'a pas marché. Ou alors, est-ce qu'on aura recours potentiellement à un intervenant extérieur? Parce que le problème, c'était de se dire, est-ce que cette personne d'une commune pourrait avoir autorité sur les 5 autres? Est-ce que les 5 autres maires seraient d'accord? Donc, il était évident que tout le monde dit oui à un moment donné, mais que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le fait d'avoir un extérieur, ça apportera beaucoup plus d'objectivité et, je pense, d'opérationnalité. Merci.
Merci. Juste vous dire que, justement, on réunit le COPIL en cette même salle lundi soir à 17h30. Donc, pour cette convention territoriale globale, vous avez cité 6 communes donc, qui sont Villars, Roche-la-Molière, Saint-Genès, Lettras, La Tour-en-Jarin et Saint-Prix. Voilà. Donc, le COPIL, 8 juin à 17h30. Je vous proposais de voter cette délibération très importante, à moins que vous ayez d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on vous en remercie et c'est également approuvé à l'unanimité. Alors, nous allons aller sur du tarif municipal et je vais passer donc, en l'absence de Nadia Alouche, je vais passer la parole à Isabelle Michaud.
Oui, bonsoir. Donc, par cette délibération, il convient de procéder à la réactualisation des tarifs de l'École municipale des arts pour l'année 2026-2027. C'est une délibération qui est passée chaque année. Elle concerne à deux niveaux, d'une part les élèves qui sont domiciliés sur la commune et les élèves qui sont extérieurs à la commune. Elle concerne tous les différents cursus de l'activité musique, ainsi que l'activité danse, jazz, hip-hop, l'activité art dramatique et théâtre, ainsi que l'activité peinture et dessin. Voilà, c'est une augmentation qui se fait chaque année, qui a la marge. Mais vraiment la marche, mais qui est entre 2 et 4% en fait selon les postes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Juste dire mais 300 à peu près 300 élèves cette année, cette année scolaire, oui, puisque ça marche par année scolaire. Une école qui est
très dynamique, hein, qui a toujours été très dynamique, qui attire pas mal de gens de l'extérieur, notamment de l'ETRA, puisqu'on a une convention spéciale avec l'ETRA, puisque l'ETRA nous reverse environ 9 à 10 000 euros par an pour assurer une partie de nos frais. Et en plus de ça, les élèves de l'extérieur payent beaucoup plus que les Mounards, avec à l'ETRA un tarif un peu particulier, mais pour les autres, c'est un peu plus cher, mais ça attire quand même pas mal de gens de l'extérieur aussi, vu la qualité des enseignements qui sont pratiqués. Et donc, la proposition qui est faite par le directeur, c'est le directeur en fait, de l'école municipale des arts avec Bernou qui l'a fait, d'augmenter légèrement les tarifs, contrairement aux tarifs cantine, comme vous l'avez compris, qu'on ne souhaiterait pas augmenter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Clément Robillard.
Merci beaucoup. L'augmentation, il y a un index, donc comment ça se passe pour déterminer le pourcentage d'augmentation ? Quels sont les critères ou est-ce que c'est indexé sur un indice ?
Un indice, puisque bon, là, c'est de la culture, donc il n'y a pas d'indice ni de l'INSEE, ni rien du tout. C'est simplement que c'est à peu près chaque année, on regarde un peu aussi l'augmentation des rémunérations de nos agents, et notamment des profs de musique, théâtre, etc. C'est pour cette raison que là, on augmente à la demande aussi du directeur des écoles, de l'école. Légèrement, en fait, entre 2 et 4 %, c'est ça, Débel ?
C'est par rapport aussi aux frais de fonctionnement de l'école et par rapport à l'indice, peut-être, du coût de la vie qu'on retrouve forcément. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ?
Si, pour l'initiative. On parle toujours de tarifs. Tout à l'heure, on a signé des marchés donc avec des prestataires pour envoyer nos enfants dans les différents séjours. Mais il y a également les tarifs du centre de loisirs et également les tarifs d'école du sport. Donc, je veux passer la parole à Julien Rivière.
Voilà. Vous savez que notre politique sur la jeunesse, elle est assez forte. Donc, il est temps de fixer ses barèmes et ses prix, parce qu'il convient de fixer dès à présent le prix des séjours. Donc, non, ça paraît pas. Donc, faut que je les fasse un par un, les séjours? Non. Si? Bon, après, comme vous voulez. Il y a les vacances. Alors là, c'est fait par rapport au barème de la CAF. Hein. Là, il y a un barème. C'est les vacances d'hiver 2027, où le séjour sera à valoir pour les enfants de CM1 à la terminale. Donc le barème qui va du barème 1 inférieur à 600 et le barème 5 jusqu'à plus de 1999. Il y a aussi les vacances d'été, séjour à la mer ou à la montagne à définir. Pareil pour les CM1 à la terminale. On a aussi le séjour des vacances d'été, séjour ou à la mer ou à la montagne, là, de la troisième à la terminale. Et on a, si vous avez lu aussi, les tarifs du centre de loisirs à définir. Globalement, une demi-journée en centre de loisirs pour les tarifs barème 1, c'est 2,10 €. Et pour ceux qui sont supérieurs au barème 5, c'est 5,80 €. Et pour les extérieurs, 2,60 €. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur, 8,10 €. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y a derrière moi. Les cotisations annuelles sur le secteur jeune, vous avez vu aussi les jeunes qui fréquentent le secteur du conseil des jeunes, la cotisation annuelle est de 5 €. La carte famille loisirs à partir de 3 enfants, on a vu, il y a une réduction de 10% dès le premier enfant et une réduction de 20% sur le séjour dès le premier enfant. Et tarif pour l'école des sports sur la saison 2026-2027 qui sera applicable, hein, vous avez vu, dès le 7 juillet de 2026, c'est 150 € la saison pour les habitants de la commune et 180 € pour les personnes qui viennent de l'extérieur. On va passer au vote. Ou y a-t-il des questions avant ?
Questions ?
Pas de questions. On y va. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ?
Si, Julien, c'est adopté à l'unanimité. On va rester sur les tarifs et on les a un petit peu évoqués lors de la première, deuxième délibération, mais on va parler des tarifs cantine et accueil périscolaire. Voilà, Audrey Voirin.
Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Donc, au niveau des tarifs de la cantine scolaire, on est resté sur les mêmes tarifs que cette année. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, on souhaite qu'il y ait un bouclier. Pardon. Il faut que je recommence ? Non, c'est bon. On souhaite qu'il y ait un bouclier tarifaire parce que la cantine n'est pas toujours facile. Et puis, voilà, on vit une période avec une inflation importante depuis quelques années. Donc, voilà, ça permet d'accompagner les parents pour le temps de méridien et puis pour le temps périscolaire. Donc, pour le personnel communal, on est à 6,20 € le coût du repas. Pour les extérieurs, 5 €. Et après, c'est par rapport au quotient familial des familles. Donc, au-delà de 2000, c'est 5 €. Et en dessous de 500, on est à 3,80 €. Au niveau des pénalités, donc ça, c'est si on ne respecte pas les règles de réservation ou d'annulation du repas, on est sur une facturation à 10 €. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, on ne facture pas le repas entier, le coût du repas que ça coûte à la commune. Voilà, et en termes du périscolaire, on était à 3,50 € pour les extérieurs et 2,40 € pour les habitants de Saint-Priest-en-Jarret. Et donc, pareil, on souhaite garder ces tarifs pour l'année 2026-2027.
Voilà, c'est un signal qu'on souhaite donner donc aux parents, en leur disant que bon, il y a plein de choses qui ont augmenté. La cantine n'augmente pas, c'est aussi pour essayer de renforcer un peu son attractivité. Bon, au niveau de la cantine, c'est vrai qu'elle ne fait pas tout le temps l'unanimité, même si c'est vrai qu'on peut estimer qu'elle est de bien meilleure qualité par rapport à avant, quand on passait par un prestataire autre et que la cantine était à la Villa Saint-Michel. Là, maintenant, elle est dans des locaux quand même relativement agréables pour les enfants. Et voilà, donc voilà le signal qu'on voulait donner aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas.
J'ai une question, plus une suggestion en réalité qu'une question. J'ai bien compris qu'il peut exister un certain nombre de difficultés financières pour certaines familles, et je comprends bien l'absence d'augmentation, mais est-ce qu'à l'avenir, on ne pourrait pas envisager une légère augmentation, notamment pour les extérieurs, ne serait-ce que pour marquer une petite différence entre les extérieurs et les familles mounardes ayant le quotient familial le plus élevé, peut-être à la marge, mais ça reste peut-être symbolique, mais quoi qu'il en soit, avec une légère augmentation, ça pourrait peut-être faire entrer un petit peu plus d'argent dans les caisses de la commune. Merci.
Merci, c'est une suggestion. Comme aussi, on avait l'idée d'indexer le prix du repas vendu au prix d'achat du repas, qui a fortement augmenté ces dernières années. Donc, il y a eu un dernier marché qui a été signé il n'y a pas très longtemps, donc pour 3 ans, où il y en a quand même une grosse augmentation, je crois que c'est de 40 centimes. C'est vrai que voilà, ça aurait été tentant en fait, de la répercuter sur le prix de vente, hein, ce qui aurait été normalement économiquement et financièrement logique. Mais compte tenu encore par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à l'attractivité de nos écoles, par rapport à l'attractivité de la cantine, on va faire ce qu'on appelle une année blanche. Et par contre, c'est vrai qu'après, je pense qu'il faudra qu'on augmente un petit peu pour essayer non pas de récupérer le retard, mais au moins qu'on soit en ligne avec l'augmentation des prix. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer cette délibération aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci, c'est à nouveau une fois adopté à l'unanimité. Et je vais repasser la parole à Julien Rivière, puisqu'on va traiter en fait d'une subvention en faveur de l'association du Secours Populaire.
La subvention qui était arrivée la dernière fois au conseil municipal a été pour nous validée d'un montant de 1 600 € en faveur du Secours Populaire. Voilà. Y a-t-il des questions ?
J'ai une question.
Oui, clairement bien.
Là encore, pas tout à fait en lien direct avec cette délibération, mais on a eu des remontées de la Banque alimentaire nous indiquant qu'une demande de subvention avait été faite. Sauf erreur, ça avait été évoqué lors du dernier conseil, mais juste pour qu'on soit bien sûr que... parce que je crois que cette demande a été faite en début d'année. C'est ça. Donc pour bien m'assurer que ce n'est pas passé à la trappe, si j'ose le dire, entre les deux mandats, quoi, que ça va bien être traité. Parce que comme je vois que ce n'est pas traité lors de ce conseil-là, je m'en inquiétais.
Pas traité, c'est-à-dire à partir de maintenant ?
Ah bah ça, ouais. Oui.
Non, en fait, on a bien pris en compte la demande, sauf qu'on voulait peut-être la faire passer au CA du CCS, en fait, au conseil d'administration, donc on en parlera, mais il y aura en tout cas un versement fait à la Banque alimentaire.
Merci beaucoup.
Voilà, on revient sur le Secours Populaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Validé.
Merci pour l'unanimité. On laisse la parole à Julien Rivière qui concerne cette fois-ci alors une subvention exceptionnelle puisqu'on a déjà voté une subvention de fonctionnement à l'harmonie municipale, mais c'est une subvention qui est arrivée après, qui est liée en fait à
un anniversaire.
Pas un anniversaire, à la réception d'une harmonie qui vient de très loin.
Voilà, c'est une harmonie qui s'appelle l'harmonie de Washington, qui vont fêter leurs 100 ans. Malgré le nom, c'est québécois. Voilà, ça vient d'une élève de l'harmonie de Saint-Priest-en-Jura qui a fait ses études au Québec. Il y aura trois représentations dans la Loire avec cette harmonie qui fête, que je vous ai dit, leur 100 ans, dont une date ici même le 11 juillet avec après forcément la visite de notre ville et du Cray, la visite du musée des Verts. De Geoffroy Guichard, ça va de soi. Ils pourront peut-être repartir avec un carré de pelouse. Et surtout, à 18h, un concert à la Villa Saint-Michel. Et en fait, ces 1500 euros sont surtout destinés au repas pour l'harmonie québécoise qui sera présente. Et surtout, le dîner sera préparé, enfin sera pas chaud, par un mounard, puisque le restaurant, c'est la bonne assiette. Il demande une subvention de 1500 euros. Qu'on a accordé. Si vous le souhaitez, le conseil, on va passer au vote, sauf s'il y a.
Juste une petite remarque, quoi. Il nous demande à 2005 au départ.
Oui.
Et c'est vrai que, on a.
Dilté.
Voilà, on a souhaité donner 1005 pour montrer un geste en leur direction, mais voilà, on n'a pas donné la totalité de la subvention.
Voilà, on va passer. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Voilà.
Merci pour cette belle unanimité. On va passer sur des sujets maintenant de personnel communal et je vais passer la parole à Jean-Baptiste Laurendon.
Bonsoir à tous. Comme habituellement, on finit par les ressources humaines. Ce soir, peut-être déjà vous dire, j'ai pas pu le faire pour ce conseil municipal, mais certains de mes collègues sur le dernier conseil municipal, m'ont fait des remarques, on va dire, par rapport au langage, on va dire, utilisé, par rapport aux catégories. Donc, je vous ferai passer pour le prochain conseil municipal une petite note afin de vulgariser le plus possible, on va dire, les catégories d'emploi et les différents termes utilisés en matière de ressources humaines sur les fonctions publiques, afin que ça puisse être plus compréhensible pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à ces fonctions-là. On va passer à la délibération concernant le CST, donc CST, Comité Social Territorial, donc c'est l'instance représentative pour les agents municipaux. Il est proposé deux choses ce soir, simplement déjà de voter dans un premier temps le maintien, on va dire, du nombre de personnes titulaires et suppléantes représentant de cette instance. Et le nombre qui a été déterminé par rapport au maintien, c'est 5 titulaires et 5 suppléants. Et il est proposé également de maintenir le paritarisme, donc c'est-à-dire le nombre de représentants de la collectivité qui est désigné par le maire et le nombre de représentants du personnel, et que ce maintien du paritarisme fait qu'on ait le même nombre de représentants de la collectivité et le même nombre de représentants du personnel.
Merci Jean-Baptiste. À noter qu'on avait déjà désigné ces représentants au niveau des élus et donc qui siégeront dans ce comité social territorial. Des questions ? Je propose de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci pour l'unanimité. Deuxième délibération concernant toujours le personnel communal. Je repasse la parole à Jean-Baptiste Laurendon.
Alors, il est proposé de procéder à la mise à jour du RIFSEP. Alors, le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement des professionnels. Il doit faire l'objet d'une délibération lors des modifications par le conseil municipal. Concrètement, le cas des délibérations peut intervenir dans plusieurs cas, donc notamment dans les modifications des groupes de fonctions, des plafonds d'IFSE, dans le montant des CIA et dans les critères d'attribution. Ce soir, l'objet de la délibération a pour but d'intégrer les cadres d'emploi, les montants pour les cadres d'emploi, notamment par rapport aux postes d'assistante RH et finances, et par rapport au poste de gestionnaire d'état civil que l'on a ouvert aux tableaux effectifs lors du dernier conseil municipal. Donc simplement, pour vous dire, le RIFSEP, il est composé de deux éléments principaux. Le premier, c'est l'IFSE, donc c'est une indemnité qui est déterminée en fonction des responsabilités qui sont exercées dans le cadre du poste et du niveau d'expertise et de technicité du poste. Et la deuxième composante, c'est le CIA. qui, lui, représente l'engagement du professionnel, la manière de servir et l'atteinte des objectifs et des résultats qui sont appréciés lors des entretiens professionnels annuels qui sont réalisés. Donc, le CIA n'est pas obligatoirement versé à l'agent et c'est un montant qui est versé annuellement au sein de la collectivité. En général, post-entretien professionnel, évidemment, et donc qui est apprécié par le responsable hiérarchique. Et donc, ce soir, dans cette délibération, vous avez le détail, évidemment, des tableaux en fonction des catégories qui sont présentées. Et donc, les deux postes qui sont ajoutés dans ces tableaux-là, donc c'est RH Finance, assistante RH Finance, et le poste de gestionnaire d'état civil que vous retrouverez dans les tableaux sur les catégories d'emploi en catégorie B.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce RIFSEP ? Je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Finalement, on aura eu l'unanimité sur toutes les délibérations. On va avoir un dernier point. On va vous projeter donc derrière moi un bilan en fait, des deux gros projets en fait, de l'ancienne mandature, on va dire. Projet plutôt sur 2024 avec l'école Jules Ferry. Et puis et la petite enfance, et puis le projet 2025 qui est en train de se finir sur 2026, on en a parlé tout à l'heure, du complexe sportif de la Bargette. Peut-être s'enlever, non ? Alors, on est sur tout d'abord le projet de Jules Ferry donc, avec la petite enfance. Je rappelle que Jules Ferry, donc, c'est la fusion de deux écoles, donc Jean Massé, qui se trouvait dans le quartier des Carrières, et de Jules Ferry, qui se trouve donc au centre-bourg. Donc la nouvelle école s'appelle Jules Verne, et en plus de ça, l'ancienne municipalité donc, avait décidé d'y intégrer un projet de petite enfance, donc, ce qui a permis de construire en fait de plein pied, et puis plutôt bien placé en fait, le pôle petite enfance, tout en gardant la crèche un peu plus sur la place derrière l'église. Alors, il ne s'agit pas de juger, en fait, de ce qui a été fait. C'était simplement de dire que c'était un projet qui, architecturalement, on se l'accordera ensemble, qui est réussi, qui est financièrement onéreux pour la commune et qui, et on l'a vécu à travers les différents retours en fait, de l'école, etc., de la baisse des effectifs, etc., qui peut être un projet éducatif qui reste encore inabouti, qui va demander encore pas mal de travail à faire. Donc le budget, alors le budget initial, qui sincèrement m'arrêtera, mais je crois qu'il était au départ de 3,8 millions, il me semble. Donc on est en large dépassement parce qu'il y a plein de choses qui sont venues se rajouter après. Donc vous avez la partie études honoraires, donc je parlerai hors taxe, de un peu moins de 433 000 euros. La partie matériel et équipement, c'est 32 565 et la partie travaux, donc c'est 4 151, un peu plus de 4 151. Voilà, ce qui fait un total de travaux hors taxe de 4 617. Donc les travaux, bien entendu, c'est une grosse partie de mise aux normes des bâtiments en termes d'isolation, mais également la construction de nouveaux bâtiments pour la petite enfance. Voilà, c'est une rénovation complète en fait sur un site qui est assez large, hein, puisqu'il y a l'école. Bien entendu, maternelle et l'école élémentaire et la petite enfance. Voilà d'où en fait les montants qui vous sont annoncés ce soir. Donc, comment ils ont été financés ? Ils ont été financés par quand même pas mal de subventions. Tout d'abord, la région Rhône-Alpes-Auvergne qui a donné 600 000 euros. Il y a une subvention CAF, donc au-delà en fait des conventions qui ont été signées tout à l'heure avec la CAF, c'est une subvention d'investissement à hauteur de 151 338 euros. Une subvention du CIEL, donc le CIEL syndicat intercommunal des énergies de la Loire, qui en fait s'occupe de tout ce qui est l'éclairage public et également de la fibre optique, etc., de pas mal de choses. Donc, ils ont donné 54 530. La subvention Fonds vert 2024, donc ça, c'est 1 776 240. Donc, c'est la plus grosse partie, en fait. Donc, voilà, c'est une opportunité que la mandature précédente a saisie et plutôt bien saisie, puisque ça représente quand même 38% du budget. Ensuite, vous savez que les communes, donc, même si elle paye de la TVA, donc la récupère en fait, et donc le FCTVA donc de 908 000 euros va permettre donc de financer la TVA. Donc il est récupéré, pas immédiatement, mais dans les années qui suivent. Il y a également aussi un plan de relance métropolitain, donc c'est une subvention de Saint-Étienne Métropole, qui est une subvention en fait d'équilibre, et il faut en fait que le montant qui de fonds propres de la commune soit équivalent aux fonds versés par Saint-Étienne Métropole. Et donc ça se chiffre à 1,17 million euros. Et donc juste Frédéric Billon, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur en fait sur le montant TTC, 1,32 million. J'ai eu du mal à expliquer la différence, mais c'est peut-être une erreur de reprise en fait. Voilà. Les fonds propres de la commune, donc 1,17 million sur une année, ça.
Simplement sur le plan de relance, quand on a bâti le projet, bien sûr c'est un engagement pour les 53 communes de la métropole, hein, 3 projets, 3 millions par commune. Donc les chiffres qu'on avait nous annoncés initialement, il a été figé. C'est-à-dire qu'après, on ne pouvait pas l'actualiser en fonction des recettes ou des dépenses supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit différentiel de 12 000 ou 13 000 euros entre la part métropolitaine et la part communale.
Très bien, mais merci d'avoir fait la rectification. Moi, j'ai simplement une question, à la limite, que je peux poser, parce que ce n'est pas moi qui menais ce projet-là. C'est vrai que comme le prévisionnel de départ, c'était 3,8 millions, est-ce que finalement, si on était parti sur un projet à ce montant-là, on n'aurait pas eu une subvention un peu plus importante?
Alors, non, enfin, je ne pense pas. Alors déjà, les 3,8 millions, c'est 3,1 millions quand on a lancé les marchés. Ensuite, c'était 3,8 millions quand on a choisi les attributions de marché. Et après, on est rentré dans la phase d'inflation sur les matériaux. Et là, effectivement, ça a flambé. Après, ce qu'on peut décliner, c'est que de toute façon, quel que soit le montant, l'engagement de la métropole, c'est dans la limite de 3 millions, la moitié du reste à charge, c'est-à-dire qu'à la fin, une fois déduites toutes les subventions, ce qui reste à charge de la commune, c'est divisé par deux, la moitié pour Saint-Étienne et la moitié pour la commune. C'est pour ça qu'on a un petit décalage là, de quelques milliers d'euros. Et enfin, ce qui est très important, c'est le fonds vert, parce que bien évidemment, et compte tenu de l'investissement de notre ancien député sur ce dossier et la rencontre à plusieurs reprises avec le sous-préfet sur ce dossier, il est venu à plusieurs reprises visiter l'ensemble du chantier, il y a eu un très fort engagement du fonds vert. Et c'est vrai que sur les 11 millions de fonds verts attribués au département de la Loire, on a eu 1,7 million. Et on savait qu'on était dans cette mécanique. Je n'attendais pas à l'époque, on n'attendait pas 1,7 million. On a vu un engagement sur 1,3 million. Et on a bâti le plan de financement sur ces perspectives de subventions. C'est pour ça que quand Jean-Michel dit que ça a coûté 5,5 millions, c'est vrai, en TTC, mais pour la commune, c'est 1,32 million. C'est ça aussi qu'il faut voir. On n'aurait jamais pu autofinancer 5,5 millions. Le dernier élément, et là, c'est une question que je pose. Le FCTVA, donc c'est sur la TVA qu'on a payé une année donnée, on en récupère une partie 2 ans après. Donc on se projette. Donc là, les 908 000, est-ce que ce sont le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, versé en 2026 au titre des dépenses de 2024, ou est-ce que ça intègre l'intégralité des financements 2024 et 2025 c'est la totalité.
Alors, d'accord.
Alors ma question, elle est double. On aura la même problématique pour Camille de Rochetaillé avec 657 000. Là aussi, c'est une estimation. Parce qu'on a encore des dépenses en cours sur 2026 et on percevra le FCTVA qu'en 2028. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on voit au niveau des plans de financement.
Merci pour ces précisions. Alors oui, fonds propres de la commune, c'est 1 million. Hein. C'est un investissement qui est très, très important. Hein. Enfin, bon, c'est vrai que moi, j'ai 12 ans de mandat derrière moi. C'est vrai que c'est un investissement qu'on n'avait jamais fait. Il a été financé, donc, alors pas que d'autofinancement, parce que ce n'était pas possible, il a été financé à hauteur de 600 000 euros par de l'emprunt. Et donc, le reste a été prélevé sur les fonds propres de la commune. Voilà. Voilà pour ce projet-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va passer au deuxième. Qui est un projet, là aussi, je le reconnais techniquement de haute qualité, hein, mais qui est financièrement très onéreux, qui est encore sportivement à travailler. Voilà, parce que c'est vrai que bon, il y a deux clubs, enfin deux associations qui sont parties prenantes. Donc il y a le football, le club de foot, le CEL Football, et puis également le club de tennis, donc avec les paddles. Bon, c'est vrai qu'on les a vus il n'y a pas très longtemps, on les a vus déjà à plusieurs reprises. Bon, il y a encore quelques sujets à caler et puis des conventions à signer entre la mairie et le club, notamment pour aller récupérer aussi une subvention pour la Fédération française de tennis qui est quand même de 100 000 euros et qui ne figure pas dans ce tableau. Voilà, le budget initial était de 2,8 millions. Donc on est sur une base aujourd'hui de 3,582 millions, un peu plus hors taxes. Études en horaire, donc 137 000, éclairage complexe sportif, 242 000. Les plantations, il y en a pour un peu plus de 3 000. Matériel d'équipement, un peu plus de 11 000. Et les travaux globaux, 3 188 567,98. Bon, alors qu'est-ce que ça comporte, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore visité, parce que le site n'est pas complètement ouvert, il sera ouvert, je pense, la semaine prochaine, complètement. Il y a encore des commissions de contrôle qui doivent passer. Donc, on a refait le terrain d'honneur du club de foot. C'est un terrain donc, qui était en herbe, donc on a supprimé le terrain en herbe pour le remplacer par un terrain synthétique. On a fait un terrain, mini-terrain, enfin, un terrain à 7, pardon, merci. Un terrain à 7, donc en synthétique également. Ensuite, on a fait deux pistes de padel et deux cours donc extérieurs en terre battue. Et on a fait également, pour remplacer le court couvert qui était exsangue, qui a été démoli, on a fait un nouveau court de tennis intérieur. Et donc, avec toutes les à côté, le parking qui a été fait parce qu'il n'y en avait pas, les accès, etc. Donc, c'est un gros, gros projet. On l'a financé comment ? On l'a financé toujours avec un peu de subvention, donc à hauteur de 150 000, toujours à la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui nous a donné au titre du foot. On a eu également une subvention du conseil départemental de 161 670 euros. La subvention région, pour l'instant, on ne l'a pas mise au niveau de la Fédération française de tennis, mais elle devrait arriver. On attendait peut-être l'Agence nationale du sport avec la Fédération française de football, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé. On a ce fameux FCTVA donc, qui sera touché dans les deux ans qui vont arriver, donc un peu plus de 657 000 euros. Et les grosses subventions, c'est le plan de relance métropolitain de 1 338 476. Et Front Pop de la Commune, là, c'est beaucoup plus important, c'est 1 932 379. Voilà, financé en partie par de l'emprunt à hauteur de 600 000 euros et l'autre partie sur les fonds propres de la commune. Donc là, c'est vraiment un gros morceau. Alors, pour l'année 2025, vous l'avez vu à travers le point qu'on avait fait lors d'un dernier conseil municipal. Mais voilà, c'est un budget qui est conséquent et qu'il va falloir absorber sur les prochaines années, notamment avec une 2026 qui est un petit peu compliquée, compte tenu on démarre aussi le mandat. Et puis également, on n'a pas beaucoup de marge d'investissement compte tenu de ce projet-là. Et on devra se résoudre sur cet exercice-là. Peut-être pas une année blanche en termes d'investissement, mais en tout cas une année très, très légère en matière d'investissement. On fera vraiment on assurera les coûts partis. Et puis également, on fera quelques investissements qui nous ont été demandés, mais de faibles montants. Voilà pour ce budget du complexe sportif. Je vous invite, sportif de la Bargette, je vous invite à aller le voir. Il sera ouvert la semaine prochaine et on l'inaugurera donc en date du vendredi 4 septembre à partir de 17h. C'est ça, Julien ? Donc, bien entendu, vous serez toutes et tous invités à cette inauguration. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce complexe ? Très sincèrement.
Alors, la première, effectivement, le budget d'investissement 2026 a été voté sous l'ancienne mandature en équilibre. Donc, il n'y a pas de déséquilibre provisionnel pour l'instant. La seule chose qui n'était pas prévue en mars, c'est éventuellement des surcoûts supplémentaires. C'est-à-dire que s'il y a des surcoûts à financer, ça sera au détriment d'autres investissements. Mais le budget, il a été voté en équilibre. Deuxièmement, je voudrais dire que sur ce projet, j'ai un très fort sentiment, un ressentiment important vis-à-vis du CIEL, du syndicat intercommunal des énergies de la Loire, avec lesquels on a travaillé depuis le départ pour proposer, que ce soit sur les paddles ou sur les parkings, des couvertures photovoltaïques. Donc, ils étaient tout à fait d'accord, y compris pour financer une bonne partie de la structure, avec pour eux, à l'époque, un retour sur investissement sur 30 ans. Donc on est parti là-dessus. Et au bout de 4 mois, on nous a dit, non, tout compte fait, 30 ans, c'est trop long, donc on ne suit pas. On a perdu 4 mois. Après, ils nous ont dit, mais c'est pas grave, on va couvrir les parkings qui sont créés en photovoltaïque. C'est pas vrai. Ils ne l'ont pas fait non plus. Alors qu'on a vu, dans le même temps, qu'à Villars, ils partaient sur du photovoltaïque sur 30 ans. À Saint-Priest, ce n'était pas possible. À Villars, ça l'était. Donc là aussi, ça démontre, par rapport au CIEL, des situations où le CIEL est un partenaire essentiel de notre vie communale et pour l'ensemble du territoire de la Loire, avec des interlocuteurs, des techniciens comprennent nos problèmes et des décideurs politiques. On élira prochainement le nouveau conseil d'administration du Ciel, où parfois les avis divergent. J'avais demandé à Marie-Christine Thivan, présidente du Ciel à l'époque, des explications qu'elle n'a pas été capable de me fournir entre les décisions techniques qui engagent le Ciel et le contexte politique. Donc voilà, j'ai un gros ressentiment parce qu'on a perdu beaucoup de temps et surtout une bonne partie du financement des paddles.
Merci. Je ne me prononcerai pas par rapport à ce que Christian Saint va dire. Bon, justement, ça tombe bien, le Ciel, le nouvel exécutif sera voté lundi. Donc on a nos deux représentants qui seront présents. Et ça sera de toute façon, puisque Marie-Christine Thivan n'est plus maire de Sorbier, donc ça sera un nouvel exécutif. Bon, c'est vrai que ce n'est pas pour corroborer tes propos, mais c'est vrai que bon, les premiers contacts avec le Ciel là, depuis qu'on est arrivé, notamment au niveau de l'éclairage public, voilà, ça laisse beaucoup à désirer, notamment avec la qualité des prestataires. Pour réallumer l'éclairage public, ça a bien mis 15 jours. Voilà, c'est juste un petit message. Voilà ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Bon, c'est assez intéressant quand même d'avoir les chiffres. Mais encore une fois, allez voir là-bas. Les deux clubs, ben, j'espère qu'ils vont avoir des bons résultats. Alors, c'est un peu plus difficile pour le club de foot parce que cette année, il descend. Et en plus, les équipes, bon, on sent un peu en difficulté parce que voilà, c'est difficile aussi de trouver des bénévoles ben, qui s'occupent des enfants et de les accompagner sur les différents terrains de foot de la région. J'ai appris hier soir qu'on changeait d'entraîneur de l'équipe 1. Ça va peut-être redonner un peu de boost et de faire venir un petit peu de nouveaux joueurs. Pour le tennis, c'est vrai, ce qui est annoncé par la FFT, c'est une recrudescence de licenciés grâce au paddle aux alentours de 250. Voilà, ce qui est énormissime, mais apparemment, c'est ce qui se passe dans d'autres clubs. Donc voilà, donc ça va, bien entendu, redonner du peps à ces clubs-là. Mais ça va peser, c'est vrai que sur les futures années, il va falloir amortir en fait cette grosse dépense. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez une question? Oui, Audrey Warin.
C'est pas une question, c'est pour répondre à M. Robillard par rapport aux effectifs. Alors, c'est un prévisionnel. Hein. Donc, au niveau de Georges Sand, les maternelles, on était à 58, on passerait à 50. Et l'élémentaire, 95 élèves, on passerait à 102. Donc 153 en tout pour cette année et 152 en prévisionnel. Donc ça, c'était lors de notre rencontre au mois de mai. Au niveau de Jules Verne, on était à 83 maternelles, on passerait à 86. Par contre, en élémentaire, on était à 182 et on passerait à 168. Donc 265 élèves, on passerait à 254 élèves. Et en termes de dérogation, sur les extérieurs qui ont demandé à venir sur Saint-Préant-Jarret, il y a eu 7 demandes et 7 accordées. Voilà. Après, c'était de l'interne entre écoles. Et sur Saint-Prié, des dérogations qui partent sur l'extérieur, il y avait eu 6 demandes. 4 accordées, c'était des suivis de fratrie et 2 refusés. Parce que aujourd'hui nos classes sont menacées et que voilà.
Si pour ces précisions, juste rajouter, quand on a été à l'UN, on lui a dit mais il y a 75 logements qui sont en train d'être construits sur la commune. Ils semblaient-ils pas être au courant. Peut-être, je dis pas que ça aurait peut-être pu renverser la barque, mais en tout cas tous les arguments qu'on a mis en avant, le fait aussi que les écoles, elles avaient beaucoup évolué, qu'il y avait une réelle mixité sociale, qu'il y avait beaucoup de choses. Ils nous écoutaient d'une oreille attentive, on va dire. On espère simplement qu'on sera écouté pour le poste de directeur, ce qui n'est absolument pas sûr aujourd'hui. On le saura le 30 juin. Est-ce que vous avez d'autres questions pour clôturer cette séance? En tout cas, je vous remercie de votre attention, de vos votes, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie le public d'être venu aussi nombreux. À très bientôt.